Bonjour et bienvenue à l'Institut des libertés, où aujourd'hui nous allons vous parler un petit peu de l'ouverture au monde qui se prépare et des changements des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Ça fait quelques mois, ça fait quoi,
Quelque
six
temps,
semaines,
oui.
que à peine que Donald Trump a été investi, a prêté serment, et j'ai l'impression que tous les jours, on est en train de découvrir une nouvelle façon de faire, j'allais dire un nouveau drame, mais c'est parce que les autres médias les traitent comme des drames, mais en réalité, c'est juste des accélérations de l'histoire. Et il se passe tout un tas de choses qui, aujourd'hui, t'ont fait te questionner sur l'agencement un peu du monde à venir de demain.
Ben voilà, c'est un petit peu ça. Et Lénine disait que parfois, en quelques semaines, il se passait plus de choses qu'en 10 ans. Et on est dans une de ces périodes où, à l'évidence, l'histoire accélère, quoi. Mais elle accélère rarement à partir d'une situation complètement nouvelle. Elle accélère à partir de choses qui étaient souvent déjà visibles avant et qui, d'un seul coup, émergent. Et puis, on a d'autres qui s'écroulent et qui... Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'inattendu. Alors, pendant l'été 2023, j'avais écrit un livre, il y a l'autre qui ronfle là, déjà. J'avais écrit un livre qui s'appelait La vérité vous rendra libre, que je montre ici, qui s'est bien vendu d'ailleurs. On en a vendu plus de 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il est bien. Mais dans lequel j'essayais d'expliquer les forces qui étaient en train de se mettre en place pour lutter contre d'autres forces. Et là-dedans, j'expliquais que. Après la chute du mur de Berlin, les États-Unis étaient passés dans la situation d'hyperpuissance. Il y avait qu'une personne qui dominait, c'était eux, quoi. Et il y avait eu une partie du personnel politique américain qui avait essayé de transformer cette hyperpuissance américaine, en un gouvernement mondial. Tu vois que tout le monde n'avait qu'à obéir, les États-Unis allaient nous mener vers un avenir glorieux, on connaît l'histoire, c'est celle qui venait d'échouer en Union soviétique. Et donc, dans ce livre-là, j'ai expliqué ce qu'ils avaient fait depuis la chute du mur de Berlin pour nous amener petit à petit dans la situation désastreuse dans laquelle on était, qui était une réduction constante de nos libertés et de la souveraineté des différents pays.
Je pense que le pinacle de cette action a quand même été le Covid.
Le Covid, voilà, c'est
L'enfermement mondial, quand même, au nom de nos libertés.
Voilà, il y a eu, il y a, mais il y a eu plusieurs endroits où ça s'est vu très bien. Il y a eu le Covid, et puis il y a eu, bon, la guerre en Ukraine, d'un seul coup, on a dit, il y a les bons et les méchants, et si vous dites autre chose, vous êtes
Toujours encore maintenant.
toujours maintenant. On a fait l'émission la semaine
Avec
dernière
Léonard,
là-dessus.
que je vous invite à regarder.
Vous avez eu le Covid, vous avez eu comme ça toute une série de trucs qui vous ont permis qu'il y avait des mots d'ordre qui étaient donnés. Parce que si vous écoutiez, ce qui était mon cas, les nouvelles en Angleterre, aux États-Unis, en France, etc., c'était les mêmes thèmes au même moment, etc. Donc on sentait bien qu'il y avait des fiches qui étaient données aux journalistes pour dire voilà la pensée officielle. Et puis est arrivé un homme curieux qui s'appelle Trump, qui a été élu une première fois. Et la première fois, il a pas très bien compris. Il disait, je veux nettoyer le marigot à Washington, mais il n'a pas compris très bien qui étaient ses ennemis. Il raisonnait encore un petit peu entre, mettons, gauche et droite, quoi. Moi, je suis à droite, donc. Et puis, il s'est fait dégommer par des gens qui étaient soi-disant ses alliés et qui faisaient partie du marigot à Washington. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment une gauche et une droite, il y avait une espèce de tentative autoritaire par des élites technocratiques, etc., pour enlever au peuple leur droit de décision. C'était la souveraineté. Donc il a été battu. Bon, je crois qu'on le saura un jour si c'était vrai ou pas qu'il était battu, mais on verra ça maintenant avec les nouvelles enquêtes. Et probablement la plus grosse erreur qu'ont fait ces gars-là qui essayaient de dominer le monde comme ça. Ça a été de faire battre Trump. Parce que la deuxième fois, il a eu 4 ans pour réfléchir, pour comprendre, pour analyser, pour recevoir des gens.
Et pour changer les équipes autour de lui,
Et pour
parce
changer
que
les équipes autour de lui.
Bannon, c'est pas Tutsi Gabbard, quoi.
Il a mis autour de lui des gens dont la moitié d'ailleurs étaient souvent d'anciens démocrates. C'est ce qu'on ne dit jamais assez.
Et robustes.
Et qui ont une connaissance assez forte de ce que c'est la liberté individuelle, parce qu'ils en ont tous profité, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui ont réussi de façon extraordinaire, etc. Bon. Donc il est arrivé avec une nouvelle équipe. Alors, il est évident, et je vais y revenir, ça va être l'objet de cette réunion, je pense, aujourd'hui, c'est que il y avait depuis la chute du mur de Berlin, une tentative par les États-Unis de constituer un empire. C'est-à-dire qu'un empire, c'est une construction politique qui est un peu curieuse, qui n'a pas vraiment de frontières. Tu vois, c'est-à-dire que tu es l'empire, mais tu as des pays qui sont pas officiellement à toi, mais dans lesquels tu as mis des gens qui sont un peu tes obligés, si tu vois ce que je veux dire. Qui sont des gens qui t'obéiront à l'aider. Donc, ils voulaient construire, il y avait une tentative de constituer un empire. Et l'empire, par définition, ça tout part du haut. C'est-à-dire que le chef de l'empire décide et puis tous les autres s'alignent, tu vois, c'est une construction verticale avec le pouvoir qui est au sommet. Et ça plaît pas du tout à... C'est pas du tout dans l'esprit de la Constitution américaine, c'est pas du tout dans l'esprit des Américains, et c'est quelque chose qui venait un peu de l'extérieur. Et ce qui est amusant, c'est que ce qu'on appelait les néocons, qui ont défendu cette idée, les néoconservateurs, c'était souvent d'anciens trotskistes de gauche.
Ah.
Tous les néocons sont d'anciens trotskistes.
Et donc ils n'ont rien contre un système pyramidal.
Non. Bien au contraire, c'est ce qu'ils veulent faire, parce qu'eux, ils savent faire le bonheur des gens.
Ouais.
Et donc, tous ces trotskistes, bon, ils étaient là, c'est ce qu'on a appelé l'état profond, cette espèce d'alignement de gens. Et pour un homme comme Trump, et pour une grosse partie de la population américaine, qu'on le veuille ou non, le souverain, c'est le peuple, c'est pas les gars qui sont au sommet. Et donc, Trump s'est rendu compte, pendant ces 4 années de traversée du désert, là, que probablement, la seule solution, c'était pour les États-Unis de cesser de vouloir être un empire et de redevenir un État-nation. C'est-à-dire un État-nation qui, lui, a des frontières. Lui a des intérêts. Dans la situation précédente, celle de l'empire, s'il y avait des sociétés qui permettaient de consolider l'empire et que dans le fond elles payaient pas d'impôts aux États-Unis, etc., c'était pas grave, parce que ce qui comptait, c'était l'empire, c'était pas la survie de la population américaine, quoi. Et là, ce que Trump est en train de faire, c'est qu'il a dit America first. Ce qui veut dire la nation américaine est plus importante que l'empire. Donc, on est en train d'assister à l'effondrement de la tentative d'un certain nombre d'élites aux États-Unis pour créer un empire américain, et ça amène à un retour violent de la nation américaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que les États-Unis avaient un certain nombre de nations vassales, un peu partout, dont ils assuraient la défense militaire. Tu vois, ils disaient, ne vous inquiétez pas, si on vous attaque, on est là. Et ce que dit Trump, c'est qu'il dit, non, il n'y a aucune raison qu'on assure votre défense militaire, parce que d'abord, vous n'êtes pas très sympa, puis ensuite, on ne peut pas dire que vous défendiez très très bien les valeurs américaines, qui sont là en particulier la liberté d'expression. Et à cet égard, probablement le point de basculement où ça a été annoncé officiellement au monde entier, ça a été le discours de Vance à Munich.
Oui, bien sûr.
Où il a dit, les gars, vous ne pouvez pas à la fois virer les gens en Roumanie.
Ce qu'ils ont continué de faire du reste.
Ils ont continué de faire.
Constance.
Et prétendre que vous êtes des démocrates, etc. Vous ne pouvez pas, ce qui était une autre façon de dire, vous pouvez pas faire un coup d'État à Kiev et prétendre que la Russie est responsable de tous les crimes qui sont passés depuis là-bas. Les États-Unis ont viré avec Victoria Nuland, le président qui avait été élu à l'époque, pendant le coup d'État de Maïdan, là. Et pour donner le pouvoir aux Ukrainiens, et dans le journée qui a suivi, les Ukrainiens au pouvoir ont interdit la langue russe dans l'enseignement. Alors, il y avait 25% de la population qui était à l'Est, qui était russe, donc ils n'auraient pas été contents. Ils se sont mis plus ou moins en guerre civile, et donc la guerre civile n'a pas commencé. En 2022, elle a commencé en
2014.
C'est là, et c'est donc... Ça veut dire que l'histoire officielle qu'on nous racontait, de gentils Ukrainiens qui couraient avec des fleurs dans les cheveux dans la campagne, qui étaient d'un seul coup attaqués par le gars du pays d'à côté, qui était un gros méchant, était peut-être pas la bonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si tu veux? C'est un truc très, extrêmement intéressant. Ça veut dire que les États-Unis vont essayer, sans doute, si cette analyse est bonne, de faire la forteresse américaine. C'est-à-dire qu'ils vont dire, écoutez... Nous, pendant le XXe siècle, avec Wilson et Franklin Roosevelt, et puis ensuite tous les autres, on est allé s'occuper du reste du monde sans arrêt. Mmh. Et je te fous des coups d'État militaire.
C'est la grande idée d'Woodrow Wilson, de faire une Ligue des Nations.
Ligue des Nations, c'est là que ça a commencé. Les gouvernements mondiaux, qui sont en fait exercés par une toute petite élite, qui s'auto-entretient et s'auto-choisit. Donc, les États-Unis, pendant un siècle, oui, à peu près un siècle, de 18 à 2018, à peu près, ont été sur une vague internationaliste. Je suis le leader du monde libre, oui, et le but, c'est d'arriver à quelque chose de... un gouvernement de la Terre, allez. Et il a embarqué tous les gens comme Attali, etc. là-dedans.
J'étais ravi d'être de les obliger.
Bien sûr, ravi. J'ai d'ailleurs vu une interview télévisée de Attali. On aurait dû, je ne sais pas si tu te souviens, comment ça s'appelle, je ne sais plus, il y a dans le Nord, là, quand il y a le gars qui va demander à son oncle qu'est-ce que c'est que le Nord. Le Nord.
C'était Galabru.
C'était Galabru qui dit le Nord dans le Noir, comme ça. Ouais. On voyait Attali qui nous expliquait que...
Je ne sais pas ce qu'il fait. Il se filme, alors qu'on a quand même tous eu le Covid, petit point d'ancrage, mais il se filme toujours par en dessous, avec des lumières dans le noir, effectivement, et ça donne des trucs crépusculaires. Et alors, il en fait tous les jours. Alors, je ne comprends pas, parce qu'il a les moyens de se payer un gars qui pourrait lui venir faire le son et l'image. Voilà. Il n'a pas des enfants, des petits-enfants qui pourraient lui dire « Papy, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. »
Oui, et donc là, il m'a fait un discours qui était, en comparaison de Trump-Hitler, c'était un plaisantin. Enfin, vous dites, mais ce type est un fou complet, quoi. Il peut pas croire une seconde tout ce qu'il nous dit. Donc, il y avait toute une série d'idiots utiles qui poussaient dans cette direction. Et le président de la République actuelle en est un. Ils faisaient tous plus ou moins partie de, comment on appelle ça, les Young Leaders of America.
World Young Leaders, ils sont choisis.
Ils sont choisis, puis on les amène et on les forme.
Voilà,
et tout. Ils ont tous
Attal, tout ça.
Juppé, tout ça. Ils ont tous été Young Leaders America. Donc, ils avaient partout des petits Kisling. Kisling, c'était celui que les Allemands avaient mis quand ils avaient conquis la Norvège pendant les années 40, qui était fusillé après en 45. Des traîtres, si tu veux.
Nos traîtres à nous.
C'était nos traîtres à nous. C'était des traîtres qui travaillaient pour le compte des Américains. Donc, pendant des années, tu as eu cette tension entre les États-Unis qui veulent redevenir, je dirais, autonomes et se séparer du reste du monde, et puis les États-Unis, puissance impériale.
Alors, il y a quelque chose que j'aimerais que tu m'expliques, c'est la chose suivante. On a vu Trump, dans un interview, dire « L'UE a été créée pour faire du mal aux États-Unis. » Or, nous savons, nous, on l'a lu chez Philippe de Villiers, entre autres, que l'UE a été créée plus ou moins par la CIA et par les États-Unis pour faire du mal aux États-nations. Alors, comment les deux sont réconciliables?
Ce que tu as donné la réponse toi-même à l'instant, c'était pour faire du mal aux États-nations. Et donc, l'UE s'est attachée à détruire la souveraineté française avec beaucoup allemande, italienne, etc. Donc, on a bien vu que là, il y avait, et les gens pensent, et en effet, la CIA pensait lieu, avec la CIA derrière, pensait que empêcher ces pays d'être souverains, c'était une façon de les maintenir en quelque sorte en esclavage. C'était des États vassaux. Ils n'avaient plus de défense et ils avaient besoin des États-Unis.
Puis, j'imagine aussi que pour eux, États-Unis, c'était plus facile de se dire on va les fédérer tous ces petits, puis comme ça on aura un interlocuteur qu'on gérera nous.
C'est pas tellement ça. Au contraire, ils cherchaient à créer la perte de souveraineté, par exemple, de la France, qui était un de leurs objectifs essentiels. Mais l'idée qui se faisait, c'était que ça permettait aux États-Unis de contrôler d'abord tout le personnel politique de ces gens-là. Le prix à payer, c'était que ces pays n'avaient plus besoin de se défendre, de dépenser de l'argent inutilement dans la défense. Donc, ils étaient plus compétitifs, puisqu'ils n'avaient pas besoin de se défendre, ce qui permettait à l'industrie automobile allemande de détruire l'industrie automobile américaine, puisqu'elle avait moins de coûts. Donc, le truc, c'était... Nous, c'est ce que j'explique dans ce livre, encore une fois, la vérité vous rendra libre. Là, c'est le but, c'était de rendre le consommateur américain, l'Américain dépendant de l'État, puisqu'il n'avait plus de boulot, il touchait des subventions. Tu sais, c'était,
ça, c'est la grande idée partout. Hein.
C'est la grande idée partout. Et de l'autre côté, c'était de dire, ben, OK, vous, Allemands, vous avez une grosse industrie automobile, vous exportez beaucoup vers les États-Unis, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une défense, ni de faire une défense commune en Europe. Donc, ces gens-là s'imaginaient sans doute qu'en additionnant, en maintenant ces deux pays, l'Allemagne dans un état de sujétion, et les États-Unis, dans la classe moyenne américaine, dans un état de pauvreté, ça leur permettait de rester au pouvoir, eux, tu vois, c'était... Et ce que dit Trump, c'est qu'il dit pas du tout, il faut que les États-Unis redeviennent indépendants, retrouvent une industrie, automobile ou n'importe quoi, et que les Allemands, les Français, etc., se démerdent pour se protéger tout seuls.
Alors, revenons maintenant
donc,
à ce que ça...
Donc, il y a vraiment une espèce de rupture. On retourne de l'idée de l'Empire américain, avec toutes ses faiblesses, et envers un État-nation aux États-Unis qui en prendra tout dans le fond le continent. On retourne à ce que les Américains appellent la doctrine de Monroe, c'est-à-dire les États-Unis sont responsables de ce qui se passe en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mais le reste, ils n'en ont rien à cirer, on n'ira pas voir. C'était de la vieille tendance qu'avec Wilson avait, qui était d'ailleurs un raciste convaincu. Wilson, ce n'était pas un personnage
comme
bien
du tout.
Comme on
l'a vu la semaine dernière.
Oui. Donc voilà, c'est vraiment... Donc les États-Unis sont en train de dire « Je retourne aux États-Unis et j'abandonne le reste du monde. »
Alors, qu'est-ce que ça implique économiquement? On va voir dans un premier temps, j'aimerais que tu nous dises, pour les États-Unis,
oui,
ces changements de doctrine, impérialisme-nation. Qu'est-ce que ça implique pour les États-Unis? Donc, on a vu là récemment les cours de bourse s'effondrer aux États-Unis, au Nasdaq et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça implique pour leur marché intérieur? Et deuxième question, qu'est-ce que ça implique pour nous, Europe?
Alors, commençons par les États-Unis, ce qui est plus facile. Il y a à peu près 25 ans, on avait signalé à nos clients de Kafkal qui était en train d'émerger une nouvelle forme d'organisation des sociétés qui n'avait pas existé avant et qu'on a appelé les sociétés plateformes.
Oui, et vous retrouverez ça dans le livre de Charles, c'était Libéral mais non coupable.
C'est une révolte, c'est une révolution, c'est là-dedans que je l'ai développé. Alors ces sociétés, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se rendaient compte qu'à cause de l'arrivée de l'Internet, elles pouvaient faire quelque chose qui n'avait jamais été avant. C'est-à-dire qu'elles avaient leur activité de recherche aux États-Unis. Tu avais tes bureaux de recherche aux États-Unis qui marchaient très bien.
L'activité jus de crâne aux États-Unis.
L'activité jus de crâne aux États-Unis, là,
dans
Californie.
Dans la Silicon Valley.
Et puis, tu faisais fabriquer tes produits en Chine.
En Asie, oui.
En Chine, donc la production était là-bas. Tu vendais ces produits dans le monde entier, librement, puisqu'il y avait libre commerce. Mais les profits apparaissaient dans un endroit où ils étaient très très peu taxés, comme l'Irlande ou la Hollande. Donc, ces sociétés ont cassé leurs activités en quatre, recherche aux États-Unis, production en Chine, vente partout et impôts nulle part. Alors, c'était extraordinairement favorable aux sociétés. Ces sociétés plateformes, tu vois, Amazon, Microsoft, etc., Apple, elles ont monté en bourse de façon inimaginable. Et donc, tu peux les appeler, ces sociétés, les sociétés de l'Empire. C'était celles qui bénéficiaient directement de cet empire américain qui était partout et nulle part à la fois, tu vois. C'était maintenant, si d'un seul coup, on revient vers les États-Unis, Trump, il est en train de dire, Apple, si ça vous fait rien, vous produisez plus en Chine, vous produisez aux États-Unis. Et là, vous paierez des impôts, vous paierez, non ? Donc, le modèle, cette plateforme qui a été derrière cette immense hausse de la bourse américaine depuis 30 ans, il est foutu.
Sans qu'il y ait véritablement, si on y pense, de création de valeur. Il y en a une au début, parce qu'il y a une disruption. Au début, quand tu crées un produit, il y a quelque chose de disruptif.
Ah, il y a eu une création de valeur. Tu veux, l'Internet, ça a été incroyable.
Il y a eu une création de valeur.
Mais cette valeur, de façon très curieuse, a été distribuée, finalement, à très peu de gens.
Ouais.
Enfin, chez nous, en tout cas, ça a permis un certain décollage industriel de la Chine et tout, mais nous, pas d'impôts, pas de... Donc, on a créé des espèces d'immenses postes de richesse qui n'étaient plus contrôlés par un État-nation. Tu vois, qui n'étaient plus contrôlés par...
Et qui elles-mêmes deviennent pratiquement des nations par
le... Des États, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont cru qu'ils étaient aussi puissants que des États et ont commencé à... Ce qui veut dire que ce que Trump fait, c'est qu'il dit, vous avez, pendant 25 ans, tu as eu Platform Companies First. Et puis, à partir du moment où Trump dit America First, ça veut dire Platform Companies Last. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, or, qu'est-ce qui fait 35 ou 40% de la valeur de la bourse de New York aujourd'hui? C'est des sociétés plateformes. Donc la bourse est en train de se rendre compte que ces sociétés plateformes, elles sont à peu près autant dans le viseur de Trump que la Chine, même beaucoup plus. Parce que lui,
il peut vraiment leur squeezer le kiki. Alors que la Chine, il va faire un petit peu attention quand même.
Voilà, et ils n'ont pas d'armée. Hein. Donc ce que je dis aux gens depuis un petit moment, c'est... Vous devez plus acheter l'empire américain. Vous pouvez acheter des sociétés domestiques aux États-Unis si vous voulez, mais vous pouvez pas acheter les plateformes.
C'est-à-dire, toi aujourd'hui, si dans ton portefeuille tu avais du Amazon, du Apple et ainsi de suite, tu les vendrais.
Je les vendrais complètement. Pour moi, c'est les prochaines victimes. Et comme elles font une très grosse partie de la bourse et qu'il y a eu un mouvement massif d'indexation. Tu sais, les indices, c'est beaucoup, qui est une forme d'achat d'action. Plus personne ne fait la moindre analyse, plus c'est gros, plus t'achètes. Ça veut dire que tu peux avoir une baisse profonde du marché américain, alors même que la population américaine irait beaucoup mieux. Tu as eu une baisse, hausse profonde pendant que la population américaine allait de moins en moins.
C'est complètement décorrélé. Donc
voilà. Et donc... Une baisse du marché américain aujourd'hui, ça ne veut peut-être pas dire du tout qu'il va y avoir une récession.
Alors justement, c'est là où je t'amenais, c'est que très vite, les analystes habituels de BFM sont allés nous dire sur des papiers que je lisais encore hier soir, cette perte de valeur des titres américains, ça va entraîner les États-Unis dans une récession.
Mais c'est du pipeau. S'il n'y a aucune raison, si vous voulez, parce que qu'est-ce qui crée une récession ? C'est quand les sociétés dans un pays, je pourrais le montrer, j'ai des très beaux graphiques là-dessus, mais c'est pas trop difficile à comprendre, passent en cash flow négatif.
Ouais.
C'est-à-dire que quand une société qui avait 100 de cash flow, tu sais, le cash flow, c'est ce qui te reste quand tu as tout dépensé.
Oui, c'est ce qu'on parle aussi des marges brutes
d'autofinancement. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, les sociétés américaines ont un cash flow excédentaire d'à peu près 2% du PIB.
C'est vachement bien.
C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin des banques. Ce qui crée la récession, c'est quand d'un seul coup, tu passes en cash flow négatif, tu vas taper à la banque de ta banque, il dit « c'est pas de peau ». Moi, ma direction m'a dit « plus de prêt parce que ça va mal
».
le truc habituel, hein, une banque, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il peut pas. Et donc, aujourd'hui, les fondamentales pour qu'il y ait une récession aux États-Unis n'existent pas, parce que les sociétés sont rentables, y compris parce que beaucoup de petites sociétés ont des cash flows positifs. Donc, la probabilité d'une récession est très très faible. Mais on pourrait avoir une chute très forte du marché des actions sans qu'il y ait récession. C'est-à-dire que ça va toucher simplement les 0,01% de la population qui, d'un seul coup, vont voir leur fortune passer de 300 milliards à 30 milliards, comme on s'en fout.
Comme on l'a vu là depuis hier, les gens s'amusent à dire Elon Musk a perdu X parce que le titre de... Mais je trouve ça... Alors bon, déjà, je pense que quand tu as ce genre de fortune...
Tu t'en fous de perdre 25 ans.
Je veux dire, il a plus que ce qu'il pourrait dépenser dans une vie et laisser à ses 14 enfants. Donc,
non, c'est 12 enfants, je trouve. Ça, comme
14.
Il est bien un garçon. mais il a pas fait tout avec la même femme. Donc
c'est ta fameuse histoire avec le banc. Ils sont tous du même lit.
Oui, c'est ça.
Du banquier suisse. Non, celui-là, il est du canapé du salon.
Oui, c'était de l'histoire suisse, oui. Un ambassadeur qui n'avait... Un homme politique suisse qui avait 7 ou 8 enfants et l'ambassadeur de France, il me dit, est-ce qu'ils sont tous du même lit? Le Suisse ne dirait pas, mais non, celui-là, il est des canapés du salon. C'est une histoire bête, mais ça fait rire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez eu les sociétés de l'Empire, en quelque sorte. J'imagine que si vous retournez à la guerre des étoiles, ceux qui suivaient les ordres de l'empereur, tu sais, qui avait son truc tout noir et qui avait l'air très méchant.
Palpatine.
Oui, qui avait l'air très méchant. Celles-là, elles ont progressé, mais à partir du moment où l'étoile explose...
À chaque fois que je vois les trucs de la Commission européenne, je vois le truc de Palpatine avec, tu sais, ils ont tous des espèces de petites perchoirs, ils sont avancés dans cette... je vois la guerre des étoiles, moi.
Mais exactement, mais c'était profondément juste la guerre des étoiles, c'était une description incroyable. Donc, il est évident que les sociétés de l'Empire, ou de celui qui faisait...
Dark Vador.
Dark Vador, ceux qui subissent les ordres d'Asvener, elles ont dû être très prospères et monter beaucoup en bourse pendant les années où l'Empire dominait. Mais à partir du moment où l'Empire se fait sauter la gueule, il vaut mieux acheter les sociétés de Luc. Tu vois, qui d'ailleurs ne doivent rien à Luc, mais tout à elles-mêmes. Donc d'un côté, t'as des gens qui bénéficient de l'Empire, et de l'autre côté, t'as des gens qui bénéficient de la liberté. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est revenir les sociétés qui bénéficient de la liberté. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'un des plus gros possesseurs de ces sociétés qui les bénéficient de la liberté, c'est Musk. Parce qu'avec son truc à envoyer les satellites et ses satellites et tout, il est, lui, le prochain qui va mettre la liberté de circulation des informations à la disposition du monde entier. Donc, si vous voulez, c'est presque une saga. Est-ce qu'on a eu la progression du mal, quelques hommes libres qui se dressent, et on se retrouve avec Trump, avec Musk, avec Tulsi Gabbard, avec Kennedy, avec Modi, enfin ils sont... Et ce qui est étonnant, les gens n'ont pas remarqué, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que des conseils des ministres se passent littéralement devant tout le monde. Tu veux dire que il reçoit tout le monde dans le bureau ovale, là. Il répond aux questions des journalistes en temps réel. Donc, on voit, alors qu'avant ça, c'était complètement secret. Personne ne sait qui a pris la moindre, qui est ceux qui ont pris les décisions pendant 4 ans avec Biden.
C'est drôle que tu te dises ça, parce que justement, beaucoup de gens ont pu reprocher que, dans l'entretien avec Zelensky, tout se soit passé de cette manière un peu hybride. Pour certains commentateurs, dont Jean-Baptiste Noé qui a fait un article sur notre site, il aurait dû y avoir une scission entre la période, la discussion diplomatique
mais
dans laquelle...
Mais c'est ce qui était prévu.
Dans laquelle on peut s'énerver,
mais
normalement.
Mais c'est ce qui était prévu. Ils avaient été reçus pendant une heure et demie avant, et ensuite, ils devaient passer devant dire des banalités, et ensuite, ils étaient censés déjeuner et signer les papiers l'après-midi. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont eu la réunion d'une heure et demie, etc., où ils ont dit les choses qu'ils désirent. Et puis ensuite, ils devaient dire des banalités devant les... Et là, c'est là que Zelensky s'est mis à attaquer. Et personne n'a compris pourquoi. Je crois que Zelensky est un zélé défendeur de l'Empire.
Bah, évidemment, il est payé par l'Empire.
Bah, évidemment qu'il est payé par l'Empire et qu'il avait
probablement
bien, très bien payé. Et en plus, il paraît qu'il en prend un peu pour lui. Mais enfin, je ne sais pas si c'est vrai.
J'ai lu ça aussi.
Tu as lu ça aussi. Mais
on plus, verra bien.
On verra bien, ça se saura. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il paraît qu'avant d'aller dans cette réunion, il avait été reçu par les démocrates. Parce qu'il faut comprendre quelque chose aujourd'hui, du point de vue politique, l'Empire est défendu par les démocrates et les États-Unis par les républicains. Donc Zelensky avait passé une heure ou deux avec les chefs de l'Empire. Et c'est peut-être là que le truc
Obama
a été dit.
Obama et consorts.
Obama et consorts, c'est peut-être là que...
On lui a dit ce qu'il fallait faire.
Ce qu'il fallait faire. Et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis sont gouvernés par un homme des États-Unis et l'opposition, c'est l'Empire. Et l'Empire, c'est aussi toute la Commission européenne. Je reviens à ta question de début. C'est que personne ne croit une seconde que Mme von der Leyen est une... qui est l'ancienne ministre de la Défense allemande, qui d'ailleurs a des procès aux fesses qu'elle ne peut pas avoir tant qu'elle est là-bas.
Mais tant qu'elle a son immunité diplomatique.
Mais...
Et il y avait eu déjà, on rappelle, des histoires assez compromettantes sur sa thèse, sur le fait que qu'elle était complètement spoliée, et ainsi de suite. Donc ça pose quand même une question qui est celle de l'intégrité et de l'éthique.
Et la question qu'on peut se poser, c'est tous ces chefs de l'Empire qui ont été mis là par l'Empire, serait-il possible que les vrais dirigeants de l'Empire, mettons les, comme tu l'as dit, les Obama & Co., aient quelque chose contre chacun de ces petits chefs ? C'est-à-dire de façon à le ramener dans la marche. On peut se poser la question.
Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que Macron avait été choisi aussi pour cela.
Pour cela, parce qu'on avait, on le tenait, on peut le faire obéir. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a quelque chose. La victoire de... Ils ont essayé de le tuer, d'ailleurs, deux fois. Trump, l'Empire, ils sont pas arrivés, mais il a eu du pot.
Mais c'est passé à ça, t'as vu la balle.
La balle. Et puis le type, il était entre le trou numéro 7 et 8 avec...
Celui-là, on en a moins entendu parler.
Dans la deuxième tentative. Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, la tête de l'Empire a été coupée aux États-Unis. Et puis Musk est en train de couper tous les frais afférents à l'Empire. Alors, je vous donne un exemple qui me laisse un peu pantois. C'est que je me demandais... Comment toutes ces NGO, ONG, l'organisation non gouvernementale, avaient tout ce pognon, etc. Eh ben, j'ai compris, si vous aviez un homme comme Soros, par exemple, qui crée une ONG, hein, pour la défense des phoques.
Des grenouilles à ventre bleu.
Des grenouilles à ventre bleu, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais en général, là, c'est politique quand même. Et donc, il mettait un petit peu d'argent. Et ensuite, pour la défense de la Méditerranée, allez. Et ensuite, cette ONG, qui était donc créée par les forces de l'Empire, demandait des crédits au gouvernement américain par l'intermédiaire de USAID, la société qui distribuait ses crédits, qui avait quand même 75 milliards de dollars
de
fonds par an, qui les donnait à ces gars-là.
Oui, parce que dès qu'on me demandait, dès qu'on leur demandait,
oui,
ils donnaient. Visiblement, il n'y avait aucune recherche de...
Non, mais surtout, ça dépendait qui donnait, parce que si c'était pour donner pour l'Église catholique, là, tu pouvais toujours brosser, oui, t'avais pas un rond. Donc, c'était toujours les mêmes, mais une fois que l'acte de donation avait été fait, il ne revenait, le budget était revoté chaque année et était dépensé. Donc, il y a deux choses qui m'ont surpris, c'est que la première, c'est quand ils ont coupé 88% des... Quand Musk est arrivé là-dedans, ils ont coupé 80% des donations de USAID. Et à ce moment-là, dans la journée qui a suivi, il y a un truc qui s'appelle Politico, qui avait beaucoup d'influence dans le domaine politique, qui était très à gauche, etc., a fermé ses portes parce qu'il ne pouvait plus payer ses salariés. Et on apprend aujourd'hui que Soros est en train de couper énormément de ses donations aux ONG. Ça veut dire que ce business model où vous créez une Sauver la Méditerranée qui reçoit du pognon et vous mettez un million et puis ensuite vous recevez un milliard des États-Unis et vous recevrez un milliard chaque année.
On va peut-être avoir moins de bateaux de migrants accostant sur les côtes.
Et comment donc? Mais c'est très intéressant de voir que la façon dont l'Empire et la gauche, le Parti démocrate fonctionnait, c'est qu'ils créaient des organismes qui étaient branchés sur un financement étatique sans que jamais il y ait d'audit du résultat après. Et je me demande combien il y en a en France aujourd'hui de ces trucs-là, où vous vous revotez. Et apparemment, il y avait une...
Quand on avait fait les budgets, souviens-toi, ce qui est donné à l'associatif, c'est deux fois le budget de la justice.
Oui, ben voilà.
Donc, je crois que c'est 11 milliards, la justice, et je crois que les associations, c'est 23 milliards.
Ben voilà.
Donc, et tous les ans, on donne 23 milliards à des associations qui, je te rassure, effectivement, ce n'est pas les orphelins d'Auteuil.
Non.
Voilà. Et ni la mucoviscidose non plus. Et bizarrement, c'est toujours des choses de réinsertion, de migrants, et ainsi de suite. Voilà. Sans compter l'aide au cinéma de gauche qui nous permet d'avoir...
Qui permet à Bernard-Henri Lévy de vivre noblement, puisqu'il fait des films que personne ne va voir, mais il touche des grosses subventions à chaque
comme
fois.
Comme tous les films de gauche que personne ne va voir, et qu'on récompense par des Césars, des Oscars tous les ans, et on se dit, mais qui va voir ces merdes?
Personne. Alors, donc, ils avaient mis au point une façon de piller l'État... qui était parfaitement rodé. Et donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on va voir sans doute l'écroulement de toutes ces sociétés, NGO, etc., qui d'un seul coup, quand le pognon n'arrivera plus, et ça va faire très mal. Et encore une fois, il me paraît évident que ce modèle a aussi arrosé des gens en France.
Bon, bien sûr.
Et chaque fois que quelqu'un se met à crier que Trump c'est Hitler, je peux pas pencher me demander combien il a touché, quoi, parce qu'il doit commencer à se faire des à pousser.
Tu as remarqué que là on a avec l'épisode donc Zelensky à tort ou à raison, mais on a une recrudescence de personnes qui viennent hurler que Trump c'est Hitler.
Oui. Oui, je me demande à chaque fois combien ils ont touché.
Et alors, on a parlé donc des États-Unis, et donc pour toi, il n'y a évidemment pas de récession. En revanche, il y a une sorte de changement de modèle économique.
C'est-à-dire que la subvention qui allait et qui était payée très souvent par le peuple américain à ces gens richissimes va être supprimée.
C'est-à-dire que, alors, si on reprend... Il y avait eu ces sociétés plateformes qui, quelque part, étaient sur un modèle disruptif un peu schumpeterien. C'est-à-dire
que ça partait... C'était pas une mauvaise idée au départ. Hein.
C'était pas une mauvaise idée. En revanche, tout ce qui était croissance était externalisé. Aujourd'hui, Trump dit on réintègre tout et il va tabler sur une croissance ricardienne, sur quelque chose qui réintègre aux États-Unis et les forces de travail, qui remet en contact les forces de travail avec le capital, et donc une croissance dans le dur, telle qu'on l'a connue...
Une croissance normale, et c'est pour ça qu'il dit au Canada, dites les gars, si vous voulez en faire partie, c'est le moment, parce que...
Sinon, après, on vous laisse avec les méchants.
Ben sinon, vous tombez dans le camp des méchants et c'est pas vraiment... Pas des méchants.
Pas des méchants, mais des gens dont on va plus s'occuper, vaille que vaille, quoi.
Vaille que vaille. Alors, donc
soit vous nous rejoignez maintenant dans le grand arche de Noé et vous faites le 51e état,
ouais.
Soit sinon, ben après, on ferme et le sas de sécurité et puis vous
il aimerait bien avoir le Groenland aussi qui est là, qui bouche un peu tout, qui contrôle tout. Le Groenland, et puis, le canal de Panama, ça y est, il a repris le contrôle. Donc, l'idée, c'est cette forteresse américaine. Et ce qui est très étonnant, c'est que le ministre de la Défense, là, qui a un nom impossible, je ne sais jamais à m'en souvenir, Eschnech, un nom comme ça, il a dit que les dépenses de défense allaient baisser de 8% par an. Alors même que Trump dit qu'il va augmenter énormément l'effort de défense aux États-Unis. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis... ont 1000 bases militaires un peu partout. D'ailleurs, j'invite les lecteurs à regarder une carte de la Russie et de voir les bases militaires américaines autour. Il y en a quand même partout autour de la Russie. Et il y a un de mes amis qui dit, vous voyez, ces salopards de Russes, ils sont mis exactement à l'endroit là où il y avait des bases américaines au milieu. Vraiment, c'est vraiment pour nous faire chier, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est une façon de voir les choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est ce qu'on appelle penser en dehors de la boîte. Regardez. Salopards, ils sont juste à l'endroit. C'était très bien. Donc, toute cette espèce de force américaine extérieure, Trump va dire, bah, écoutez, non, on n'en a pas vraiment besoin, sauf peut-être pour, on va peut-être mettre quelques troupes en Pologne parce qu'on aime bien les Polonais et puis parce qu'ils ont bâti une armée, eux. Mais la CIA a quelque chose comme 200 bases dans le monde entier.
Puis après, il y a toutes les bases en Afrique aussi.
Eh bien, ils s'entourent l'Afrique, oui, ils en avaient même, vous en avez partout en Afrique. Vous en avez partout autour de la Chine, maintenant aussi. Donc, tout ça, donc ce que Trump va faire, c'est qu'il va dire, on va organiser la forteresse américaine. Si quelqu'un nous attaque, on aura de quoi répondre, et plutôt deux fois qu'une. Mais on ne va pas aller défendre tous les corneaux dans tous les coins. Quoi.
Ce qui veut dire que nous, alors, est-ce qu'ils essaient de nous vendre en ce moment en France j'aimerais que tu en parles. C'est cette histoire d'emprunt de guerre.
Mais d'emprunt de guerre, ça ne veut rien dire, encore une fois, parce que...
Parce que, attends, il y a deux choses. Ils veulent nous vendre l'idée d'emprunt de guerre. Bon, imaginons qu'on fasse
pour bâtir une armée européenne.
C'est quand même...
Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ils sont dans un état de panique avancée.
Oui. Alors, ils sont...
Et ils disent, bon, ben, l'Empire américain nous lâche. Donc, il faut qu'on crée l'Empire européen.
Ce qui aurait dû être fait, si toutefois,
ils avaient voulu. Mais, donc, ça suppose qu'on ait un gouvernement européen avec... une armée européenne, des impôts européens. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment...
Alors, ça veut dire quoi? Que nous, on fusionne notre armée française ou notre armée française, elle est en plus de l'armée européenne? Parce que nous, on a une des meilleures armées. Hein. Ben, moi, je n'ai pas du tout envie de filer mes jouets.
Bien sûr que non. Donc, la solution, encore une fois, il va falloir que les Européens se mettent d'accord. Est-ce qu'ils essayent d'aller vers l'Empire européen avec Madame von der Leyen à leur tête en Jeanne d'Arc? Ou est-ce qu'on va retourner vers...
Qui va être Monsieur Macron dans 2 ans? Parce que nous ne nous l'aurons pas, si Macron aussi pousse vers cette européanisation, c'est qu'il se voit en commandant suprême...
Oui, et puis ça lui évitera peut-être aussi d'aller en prison, j'en sais rien, s'il est le protection des boîtiers.
Qu'est-ce qu'il va faire, lui,
non,
dans
mais
deux
en
ans
plus, il veut... Alors, un impôt européen... Si tu fais un emprunt européen pour développer la défense européenne, c'est garanti par tous les États de l'Europe, à la fois. C'est une garantie commune. Ça veut dire, mais c'est formellement interdit par tous les traités. Mais c'est nommé. Donc on me dira, les traités, c'est un chiffon de papier, mais enfin... Il y a peut-être la Cour constitutionnelle allemande qui ne sera pas d'accord, parce qu'elle sait très bien que c'est elle qui est en finale qui paiera pour tout le monde. Quoi. Donc l'Allemagne paiera, là.
Je ne suis pas sûr que les Italiens avec Mme Meloni acceptent ce genre de choses.
Je crois pas. Et les Hongrois, certainement pas.
Les Hongrois, ils diront... von der Leyen dira, les Hongrois, ils sont hors jeu, on n'a pas besoin...
Mais il y a quand même l'unanimité. Hein.
Oui.
On n'est jamais passé... Ils ont essayé à plusieurs reprises de faire passer une majorité qualifiée, mais c'est toujours l'unanimité. Donc, il suffit que la Hongrie, ou Chypre, ou je sais pas qui, ou
Malte,
ou n'importe qui, décide et pof, ils peuvent bloquer. Donc, déjà, c'est ça, c'est que c'est complètement interdit par les traités. Et ensuite, une armée, c'est un système vivant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des écoles, des professeurs, des théories,
des terres, des baraquements.
Des baraquements, et qu'il y ait une histoire de l'armée. C'est-à-dire que l'armée française, elle remonte à Philippe Auguste. Hein, donc, c'est pas... donc, il y a quand même une très grande histoire. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a 25 pays en Europe, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y en a 15 qui n'ont pas d'armée du tout. Mais du tout. Et je sais pas quelle est l'armée belge, il doit y avoir, pas grand monde. L'armée hollandaise, pas grand monde. L'armée danoise, j'imagine que ça doit être assez limité. La Suède a une armée. L'Angleterre a une armée, mais elle fait pas partie de l'Europe.
Tout ce qui est Portugal, Espagne.
Bon, il reste un petit peu d'armée en Espagne, mais pas grand chose.
En déroute.
Donc, le Portugal, il n'y a rien. Ou pas grand-chose, donc si vous voulez, c'est que...
En Grèce, ils doivent leur laisser 2-3 marins.
Non, en Grèce, il y a une armée, parce qu'ils ont les Turcs à côté, donc ça les maintient en forme.
Et historiquement, oui.
Historiquement, ça les, ils ont déjà donné. Donc, aujourd'hui, la façon dont nos élites essayent, en Europe, de régler le problème, c'est de dire, comme toujours, on va faire plus d'Europe, on va faire plus d'Europe.
Oui, bien sûr, mais ça n'a pas fonctionné, faisons-en plus.
Faisons-en plus, mais ça ne répond pas à la question, c'est qui décide du moment où on se bat? Tu vois ce que je veux dire? Et contre qui? La légitimité, alors.
Et contre qui? Et envoyer ses enfants? Parce que là, la grande idée, moi, je veux bien...
Mais on n'a pas d'enfants, on va envoyer qui?
Alors voilà, déjà...
On va envoyer aujourd'hui le taux de fertilité des femmes en Allemagne, ça doit être 1,3 ou 1,4. Vous regardez la pyramide des âges, c'est un V à l'envers.
Donc ils vont envoyer leurs Turcs, mais je ne suis pas sûr que leurs Turcs aient envie d'aller taper sur...
Non mais ça me rappelle la fin de l'Empire romain, c'est que il y avait...
Quand les barbares étaient sur l'autre côté du Tibre.
Non mais ils sont rentrés, les barbares. Et puis comme on n'avait plus d'enfants qui voulaient faire la guerre, on n'avait plus d'enfants aussi à Rome, c'est une croissance démographique très forte. Ben, on a pris les barbares, puis une fois que les barbares ils étaient dans l'armée, ils ont dit ben, pourquoi on suivrait les ordres de ces eunuques. Et donc l'Empire romain s'est écroulé, puis il y a des petits fiefs qui s'en créent partout. Donc plutôt que de mettre les barbares au pouvoir par l'intermédiaire de l'armée pour créer des petits fiefs, on ferait peut-être bien de recommencer directement avec les petits fiefs en leur donnant leur indépendance directement, tu vois ce que je veux dire? C'est...
Puisqu'on va en arriver là, ça éviterait beaucoup de souffrance.
Ça éviterait beaucoup de souffrance. Donc. Mais ça veut dire à ce moment-là que les petits fiefs en question, qui correspondent aux nations d'autrefois, certaines ont des intérêts communs. Par exemple, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne ont des marines et elles pourraient décider, sans demander l'avis de Bruxelles, de créer une force pour empêcher tous ces immigrants d'arriver à travers la Méditerranée pour les renvoyer vers là-bas. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, mais je vois pas pourquoi la Suède s'y collerait. Quoi.
Effectivement. Ou
les Allemands, qu'est-ce qu'ils en auront à foutre, si ce n'est que les types arriveront à pied après. Mais je veux dire, il y a des forces en Europe, mais il faut qu'ils soient reprises par les nations, un peu à la Trump, et qu'ensuite on décide de comment on va les coordonner entre nations volontaires. Quoi. Par exemple, un des grands succès européens, ça a été Airbus, mais ça a été sous la direction de la France. On a créé tout ça, et puis ensuite, il y a l'Allemagne qui s'est collée, l'Espagne, voire la Grande-Bretagne. Mais cette idée d'avoir un empire où tout est décidé par Madame Berlayen, qui a un cuit d'huître, et qui est corrompu, c'est n'importe quoi, quoi. Donc ça peut repartir que de la base. Il faut que partout en Europe, les peuples disent voilà ce qu'on veut, et qu'ensuite qu'il y ait des gens qui décident de suivre ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, toutes nos élites, y compris le Rassemblement National, ont décidé d'accepter l'euro, d'accepter l'Europe, d'accepter de dire que M. Trump était un très méchant. C'est extraordinaire de voir nos élites dire que quelqu'un qui cherche à défendre son peuple est perçu comme une menace.
Alors, j'aimerais que tu nous parles, puisqu'on parle aujourd'hui, donc là, tu viens de parler de l'Allemagne, et qu'on parle de l'Europe. On a vu la semaine dernière que l'Allemagne, potentiellement, voulait lancer un grand emprunt, non constitutionnel, encore une fois.
Mais non, s'ils empruntent l'Allemagne sous leur nom, ils peuvent emprunter tout ce qu'ils veulent. Des Allemands disent « on va emprunter 500 milliards ». Mais c'est nous tout seuls, c'est nous qui dirons où va le pognon, c'est pas Madame von der Leyen. Et Madame von der Leyen, toujours, a immédiatement dit, l'Europe va emprunter 800 milliards, mais c'est nous qui serons... Mais ça, elle peut pas. L'Allemagne peut emprunter 500 milliards. Pour venir à la France, elle peut emprunter 200 milliards si ça lui fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'on a déjà tellement emprunté que qui va nous prêter? Je peux dire déjà ce que va faire le gouvernement français, ce qu'a fait Barre en son temps quand il y avait eu la sécheresse. Il avait dit, c'était en 78, je crois, je me souviens plus très bien, qu'il y avait une grosse sécheresse, 76, il avait fait très chaud, 76. Il avait dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un emprunt forcé.
Obligatoire, contribution volontaire.
il est forcé, là. C'est-à-dire que tous les Français doivent s'y payer.
Tous les Français contribuables qui payent plus de d'impôts.
Sont obligés de souscrire et on te remboursera dans 10 ans ce que tu as emprunté.
Alors là, ce qu'ils vont faire, on la connaît.
Donc ils vont lancer un emprunt forcé.
Alors, on la connaît l'histoire. Imaginons, ils font un emprunt français. Bon, déjà, j'espère que ça va râler un peu dans les chaumières. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on l'a vu, là, ils ont rebaissé les taux au niveau de la BCE, ce qui veut dire que l'inflation va redevenir galopante.
Non, mais ils ont baissé les taux. Mais ce qui s'est passé, pendant qu'ils baissaient les taux à la BCE, les taux longs, qui sont les seuls qui, bon, qui eux, sont beaucoup montés. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que la courbe des taux devient ce qu'on appelle très pentue, comme ça, avec les taux courts à 2,5 et les taux longs à 3,5 ou à 4. Mais la dette française ayant une duration de 7 ans, elle paye les taux longs. Donc ça veut dire qu'on t'a dit que la BCE a baissé les taux, ce qu'elle a fait, mais en fait, le coût de financement de l'État français ne cesse de monter.
Ne cesse de monter,
et
certes,
ça va s'accélérer.
Mais alors moi, ce dont...
Mais qui va leur prêter? C'est pour ça qu'ils sont obligés de piquer le pognon chez les Français.
Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'en plus, cet emprunt forcé, qu'en réalité, comme ça va réenclencher de l'inflation, parce que bien sûr...
Ça va peut-être pas réenclencher de l'inflation, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Mais la réalité, c'est qu'ils vont emprunter du pognon, et les taux d'intérêt vont monter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois de plus, le poids de l'État dans l'économie va monter. Et donc, le secteur privé va baisser.
Déjà, on est à tône.
Déjà, on est à l'os. Et à ce moment,
avec une économie américaine qui, elle, va boomer.
Avec une économie américaine, une économie... Et donc, si toi, il ne t'aura pas piqué comme épargne, tu vas te dire, mais je ne vais certainement pas la laisser en France. Donc, tu vas aller investir. Regarde, depuis un an que ces choses-là se sont lancées à peu près, il y a à peu près un an, moi, j'ai beaucoup recommandé les actions chinoises par rapport aux actions américaines. Ben, les actions chinoises, sur un an, sont en hausse de 20% par rapport aux actions américaines. Donc, ça veut dire que le monde commence à se dire il faut sortir du marché américain dans sa forme actuelle, et comme je ne sais pas quoi acheter aux États-Unis, je vais acheter le pays qui va bien marcher, la Chine, est en hausse de 20%. Donc, on commence à voir très bien que les flux de capitaux qu'elle est vers les États-Unis, etc., vont peut-être y aller moins, aller plus vers la Chine. Mais si tu vas, tu connais ma thèse du développement de l'océan Indien avec ce qui se passe, l'arrivée des matières premières de Russie, etc., la rentabilité du capital investi dans l'océan Indien va être immense, ce qui veut dire que les taux réels vont monter dans le monde. Donc nous, on va investir, on va maintenant prendre du pognon pour faire encore une fois des dépenses improductives, parce que des obus, c'est pas...
Oui, mais alors, ils essaient d'expliquer aux Français, ça je le vois dans les émissions, en disant, on va relancer la croissance puisqu'on va faire de l'armement militaire.
Mais c'est de la connerie.
Ouais, mais alors, va expliquer ça aux gens.
Bah, tu dis, oui, bah, c'est toujours pareil. Donc, t'auras un boulot dans l'usine d'obus de tard, emballé. Très bien, t'auras un boulot. Mais par contre, tu pourras pas te payer le restaurant parce que le prix du restaurant aura doublé ou triplé, quoi.
Sans compter que l'énergie, on va la trouver où?
Ben, on a encore un petit peu d'énergie électrique. Ils ont pas réussi à complètement détruire.
Oui, mais encore
cette
une
idée,
fois,
si tu veux,
faudrait revenir
c'est pour
sur
ça
nos
qu'on
accords EDF.
C'est pour ça, si tu veux, qu'on a parlé, je crois, il y a quelque temps, de la théorie du sapeur camembert. Si tu payes les gens à ne rien foutre, à faire des trous, et ensuite à faire des trous à côté pour mettre la terre du premier trou, etc., tu ne crées pas de valeur. Tu crées des salaires, et c'est-à-dire que la masse, ça veut dire que ceux qui gagneront de l'argent avec les trous qu'ils font, les obus, là, ils entraîneront une baisse du niveau de vie de ceux qui ne travaillent pas là-dedans. C'est un jeu à somme nulle. Tandis que la croissance économique, c'est un jeu à somme positive. Si tu fais quelque chose dont les gens veulent, eh bien, si tu veux, tout le monde y gagne. Tandis que là, tu sais que les obus, ça ne crée aucune richesse. Donc, tu vas créer des emplois, mais qui vont juste partager la richesse qui existe déjà et qui va être elle-même en train de tomber. Donc, expliquer qu'on s'enrichit par la guerre, c'est une connerie. Les grandes crises économiques dans le monde arrivent toujours pour 4 ou 5 raisons. La guerre, le protectionnisme, l'augmentation des impôts, les nationalisations, c'est toujours ça qui t'amène au grand... Donc, on est en train de rentrer... Plutôt que d'accepter qu'on s'est trompé avec l'Europe, comme les États-Unis ont accepté qu'ils s'étaient trompés avec l'Empire, nous, on veut aller vers plus d'Empire. Ben, ça va pas marcher. Il faudrait aller le plus vite possible de retour vers les nations.
Et comment crois-tu qu'on pourrait aller vers ce choc de réalisme?
Ben, la faillite. Que d'un seul coup, les marchés financiers n'a que se disent bon, ben les obus.
Mais les marchés sont incroyables. À chaque fois, on croit que ça va pas passer et ça passe à chaque fois.
Ben oui, parce que si tu veux, on donne des ordres, on fait des. Puis il y a des... À partir du moment où tu connais, tu contrôles par l'intermédiaire de leur, du passif de leur bilan, les obligations, toutes les compagnies d'assurance et tout, les compagnies d'assurance aussi ont une espèce de, les banques ont une espèce d'incitation à continuer à acheter des obligations parce que sinon, mais c'est quand les compagnies d'assurance, les banques pourront plus parce que dans, qu'à ce moment-là, ben, il y aura plus de, en quelque sorte, on force les gens à acheter, ben, ça dure tant que les gens ont quelque chose dans leur tirelire. Mmh. Mais quand il n'y a plus rien dans la tirelire, ben...
Mais c'est peut-être par là qu'en réalité, le PET arrivera, même si effectivement les gilets jaunes s'en sont pris plein la tête.
Ils étaient un peu trop tôt.
Mais peut-être que si on va vraiment chercher dans les bas de laine des Français, là, ça va peut-être brûler du col.
Tout cet argent qu'ils auront donné à l'aide, qu'on va piquer dans l'épargne des Français...
Pour
le fil à l'usine.
À des gens improductifs.
À l'usine d'armement de Tarbes, c'est très bien.
Ou à des associations comme IFON et ainsi de suite. Il y a un moment où ça va énerver.
Ça va énerver. Mais à ce moment-là, si tu as ton niveau d'épargne qui baisse, tu vas baisser ta consommation.
Bien évidemment.
Je donne un exemple. Les assurances vie en France, c'était à peu près 2000 milliards d'euros. Hein, c'est beaucoup d'argent. Tu payais 4% de rendement. Ça te faisait à peu près, pour le gars qui était détenteur de l'assurance vie, ça lui faisait à peu près, mettons, 80 milliards à dépenser. 2000 multiplié par 4, divisé par 100. Bon. Quand les taux d'intérêt sont à zéro, il touche zéro, le mec.
Bah, oui.
Donc, c'est comme si on lui avait mis une augmentation des impôts de 80 milliards.
Et, ouais.
Et donc, à ce moment-là, les gens cessent de consommer, puisqu'ils n'ont plus les sous. Donc, c'est exactement pareil. Si tu avais un emprunt obligatoire, tu payes des salaires à Tarbes, les gens à Clermont-Ferrand, ils vont plus avoir de quoi bouffer.
Et je suis persuadée qu'à côté, comme on va drainer cette épargne vers la guerre, du coup, l'économie réelle, celle qui est véritablement constructive et qui fait des boulangeries, des crèmeries, ainsi de suite, va être complètement exténuée parce qu'elle n'aura plus de capital.
Mais il n'y aura plus de clients, les gens diront, je le vois aujourd'hui.
Ça veut dire que les métiers de service vont être en général les premiers impactés parce que tu te dis, finalement, je ne vais pas les faire...
Regarde, par exemple, autour de chez nous, ici aussi, moi, par exemple, je ne suis pas un des plus malheureux de la Terre, mais je trouve que le niveau des restaurants est tel, les prix ont tellement augmenté que je me dis, je vais me faire un sandwich. Tu vois, si moi je le dis, tu penses bien que ça doit être partout. Donc, un truc tout à fait évident, c'est que je crois qu'il y a les 80% des cafés français qui ont disparu dans les 30 dernières années. Mais c'était des endroits de convivialité où les gens... ça a disparu. Donc, on isole les gens en les appauvrissant. Et on va vers de plus en plus d'appauvrissement. Et la seule façon d'en sortir par le haut, c'est de faire ce que fait Trump, c'est-à-dire... de taper dans les dépenses de l'État profond. C'est-à-dire que si, comme tu le dis, le budget qu'on donne à ces associations, qui sont en fait que des trucs pour subventionner la gauche et la presse de mauvaise qualité, à ce moment-là, si tu continues à faire ça, le pays va inéluctablement s'effondrer. Donc, ce qu'il faut, c'est supprimer faire ce que fait Trump, c'est-à-dire que les SOS Méditerranée ont pris un rond, et c'est quand même grotesque de voir que pour accompagner les EQTF à la frontière, on dépense, je crois qu'on a un budget de 80 millions par an, et pour la SOS Méditerranée, on a 900 millions. Donc, on paye 900 millions pour les faire venir et 80 millions pour les faire sortir, et en plus, on n'y arrive pas. Mmh. Donc, il faut à un moment arrêter ces imbécilités humanitaires, mais qui ne sont que des façons, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, sur les 4,5 milliards de dollars qui avaient été levés aux États-Unis volontairement auprès de la population pour aider Haïti, ils ont reçu que 4%. Tout le reste, regardez, la fille des Clinton avait une espèce de charité qu'elle avait créée, bidon, dans lequel elle touchait 70 millions de dollars par an pour ne rien faire, qui était juste de la corruption pour les Clinton. Monsieur Obama recevait 2 millions de dollars par an de royalties sur le travail qu'il avait fait pour la sécu aux États-Unis. Donc, tu te rends compte que c'était... Mais là, si tu veux, ça va très bien, parce que c'est pas dans l'État. C'est l'État qui envoie le gros du pognon, et ensuite, les gars se répartissent. Et ils disent, on va en donner... C'était comme dans Astérix, tu sais, le type qui prenait les impôts. Là, le gouverneur romain, il avait un gros sac.
Oui.
Il prenait un gros sac, il prenait une pièce. Une pièce, c'est pour le gouvernement romain, et le reste, c'est pour moi. Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est ça, la charité de gauche. c'est de piller l'État au profit des petits salopards. Donc il faut arrêter la charité de gauche.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous auriez été intéressé par
Sinon,
ce petit tour.
Sinon, on vous explique tout là-dedans, parce que ça se passe à peu près comme je l'avais anticipé. C'est bien, d'ailleurs.
Oui. Et bon, on ne pouvait pas savoir que Trump allait être réélu, mais en tout cas, on est heureux de cette accélération qui peut-être va nous mener vers une fin heureuse. On peut rêver. En tous les cas, pour les Américains, pour nous...
Mais dites-vous bien que c'est une bonne nouvelle, contrairement à ce que vous entendez à la télévision, à la radio. Ce qui se passe aujourd'hui est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que la liberté revient.
Voilà. Et la liberté vous rendra libre.
La liberté vous rendra libre.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, parlez-en autour de vous. Et nous, on vous dit la semaine prochaine, peut-être pour une émission de questions, on verra.
Ben voilà.
Merci beaucoup. Au revoir.